Et tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale officielle certifiée ISO 9002 du 99.1, du 102.4 et du 95.9 FM. Et oui, mesdames et messieurs, dames, bienvenue dans la matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Aïe, aïe. Aujourd'hui, information principale de ce jour, c'est que nous sommes déjà le lundi 8 février de l'an 2021. Et oui, ça file, ça défile. Et on va tâcher aujourd'hui de rembobiner la bobine. Eh, hey, mesdames et messieurs, dames, j'ai un invité, il fait plaisir à voir, il est sympa comme tout. Et son statut est quand même incroyable, mais je vous en dis pas plus. Hein. Il est président. Ah, je reçois un président ce matin. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous avez deux éléments. Il est président, il se nomme prénom Patrick. Je vous dis juste un truc, et là j'avoue, je vous sors du lourd. C'est pas celui de la République. Peut-être pas même non plus celui de la région, mais vous allez voir, il compte. Et on va échanger et développer avec lui tout au long de la matinale. En tout cas, vraiment, merci Patrick. Grattez un petit peu ce matin ou la voiture dort au chaud ?
Grattez un petit peu.
Grattez un petit peu ce matin. Voilà, faites attention là si vous embarquez, que vous êtes dans la cuisine au moment où vous nous écoutez, parce qu'il y a des chances que vous en ayez pour une minute ou deux dans votre organisation. Voilà, on aura au programme de cette matinale, bien sûr, le 10e, hein, l'être le plus égratigné intérieurement ou extérieurement, je ne sais pas d'ailleurs, parce que je ne sais pas à quoi il ressemble. Voilà, déjà son propos me surprend, mais m'intrigue. Vous aussi, forcément. On sera autour de 8h30. Nous aurons 10e, une exclusivité HDRienne et principe activienne. Nous n'aurons pas de Y ce matin et j'ai une grande pensée pour mon garde-fou, mon Y à moi, mesdames et messieurs, dames. Il n'est pas là. Voilà. Je ne ferai pas de jeu de mots avec la raison pour laquelle il n'est pas là, mais ça m'embête grandement. L'ami Y, une pensée pour lui. Voilà, le tout entrecoupé de bonnes petites pauses musicales, vous avez l'habitude. Et une autre habitude, on démarre toujours par un petit titre de soul music. L'un des duos les plus incroyables, peut-être, de la soul music. On est en 68, c'est juste un truc de fou. Et j'ai bien sûr pas tapé dans le morceau légende, ni le second, ni le troisième, ni le quatrième. Mais sur cet album, ô combien incroyable. Hé hey ! Mettez du volume, vous allez être bien. Merci de nous avoir choisis.
Oh, baby, that's how it is. Oh, darling, since you've been
Alors, imaginez une telle histoire, je suis pas sûr qu'elle aurait pu être écrite, mesdames et messieurs, dames. On pense bien sûr à Marvin Gaye et Tammy Terrell avec ce morceau issu de cet album incroyable You're All I Need, sorti en 1968, 1968, 32 et 21, 53 ans d'âge, mesdames et messieurs, dames. Et juste, voilà, peut-être l'un des fondements de la soul music. Ce duo incroyable où il faut être curieux et lire des articles, rechercher des informations sur ce duo qui s'est vu se créer de manière un peu très surprenante, étonnante et surtout qui a provoqué beaucoup d'émulation l'un envers l'autre. Avant tout dans la musique où ils se cherchaient, où ils se provoquaient, où ils ont été chercher chez l'un et chez l'autre, voilà, l'énergie et la puissance maximum. Voilà, ils se sont titillés et ça a permis de produire un des duos les plus dingues, les plus fous, les plus incroyables de la soul music. Marvin Gaye, Tammy Terrell avec le morceau That's How It Is, 1968, je vous l'ai dit. Waouh! Et l'album est incroyable parce que dessus, il n'y a que des pépites. Et j'ai cherché ce petit morceau-là qui me semblait un peu très intéressant sans être déjà trop repéré dans les standards. Voilà qui est dit, voilà qui est fait.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez! Debout là-dedans!
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans! Allez!
C'est nous, et c'est bien nous, il est 8h07 si vous venez de nous rejoindre, et je vous l'ai dit, je suis en compagnie d'un président, et je vais pas trop faire de suspense. Voilà, c'est Monsieur Patrick Roussel, bonjour encore si certains nous rejoignent. Patrick, en fait, clairement, bon, je peux le tutoyer, mais j'ai pas l'habitude, et il va falloir que je prenne le pli, mais je vais commencer par un vouvoiement, puis peut-être au fur et à mesure, je vais y arriver voilà, dans cet espace matinalier. Patrick, en fait, vous êtes le président de l'ILM Basket, hein, c'est cela, hein, précisément. Donc, on est amené à se croiser de temps en temps, voilà, à la salle Omnisport, à Saint-Jean Fourré. Ça fait combien de temps que vous êtes le président de l'ALM ? Un an et demi, c'est ça ?
Ça fait quasiment deux saisons.
Deux saisons. Voilà, on parle en saison, c'est vrai. Voilà, on parle du milieu professionnel de basket, amis auditeurs, auditrices. On a déjà fait la part belle à cette discipline qui est indispensable, qui est dans l'ADN de cette ville hébroïcienne. Et vous, amis rouennais, la même chose, vous le savez très bien. Je ne fais pas de clientélisme ni de favoritisme. Lorsque j'avais le coach Neno Asseric de l'ALM Évreux, j'avais coach Ménard, Alexandre Ménard du SP Oran. Et donc, entre le confinement, l'entre-deux confinements et puis là, le début de saison, vous les avez déjà entendus parler, ces protagonistes. Mais là, j'ai le président. Et le président, c'est un statut différent. C'est quand même le président, quoi. Je veux dire, mine de rien, voilà, quoi. On est... Voilà, la radio associative Principe Actif, elle a une présidente. La radio associative HDR, elle a un président. Et bah, l'ALM Basket aussi, ils en ont un. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un peu la même chose ? Est-ce qu'on est élu au sein d'un conseil d'administration ? Est-ce que ça vote pour élire justement un président, Patrick ?
Bah, le club de basket d'Évreux, c'est à la fois effectivement un club sportif, mais c'est d'abord une entreprise. Il faut savoir qu'on a des statuts d'une SEM professionnelle. On a une majorité de fonds qui sont des fonds publics. On est organisé de la façon suivante. Il y a un conseil de surveillance, un peu comme dans une entreprise, un conseil d'administration. En dessous, il y a un directoire avec un président et quatre membres qui sont élus, qui sont là un petit peu pour, je dirais, organiser et gérer le club. Et ensuite, il y a les salariés du club. Aujourd'hui, il y a 23 salariés dans le club, avec bien évidemment l'équipe professionnelle, les joueurs, le staff. On a également le centre de formation, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on a une équipe espoir, avec un certain nombre de jeunes, on y reviendra peut-être, également avec un staff technique. Et puis, on a le staff administratif emblématique à Évreux, petite structure, mais ô combien, je dirais, obligatoire et sans laquelle on n'arriverait pas aujourd'hui à faire ce que l'on fait. Ils sont au nombre de quatre et je vais les rappeler parce que je pense qu'ils font un énorme boulot quotidien. Et le basket, c'est pas simplement le match du vendredi ou du samedi, c'est du quotidien avec 1000 choses à gérer. Il faut vraiment y être tous les jours pour savoir tout ce qui se fait. Donc le directeur aujourd'hui, c'est Quentin Gégou. Nous avons Terence Boucheron qui aujourd'hui s'occupe, je dirais, du commercial. On a quelqu'un qu'on commence à bien connaître qui est Simon Billot, qui est un peu l'homme à tout faire. Ouais. Il s'occupe de la communication. Il est bilingue, trilingue, multilingue avec les joueurs. C'est un petit peu le confident des joueurs. Et puis, on a notre Delphine, que tout le monde connaît effectivement, que les abonnés, que tout le public connaît, qui est là depuis longues années.
Très gentille personne.
Mais totalement, je dirais, indispensable à la marche du club.
bien vu. C'est vrai qu'on oublie trop souvent qu'il y a tant de personnes hein, qui gravitent dans cette structure, puisque voilà, il y a un rendez-vous qui est pris. Alors, on l'abordera un petit peu sous l'aspect, tiens, qu'est-ce que ça change? Est-ce que quand même l'État vous soutient ces histoires de huis clos? Parce qu'aujourd'hui, ce sport professionnel, on parle de deuxième division nationale pour la Pro B où évolue la LMFE. Voilà, joue à huis clos, à l'opportunité de faire quelques matchs. En ce moment, c'est deux par mois, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Quelque chose que je voudrais évoquer avec vous. Mais surtout, voilà, je voulais qu'on rappelle, merci, vous l'avez très bien fait, un peu ce que constituent les strates de ce club. Alors par contre, ça, j'avais omis qu'il y avait un conseil de surveillance où j'imagine qu'il y a peut-être l'État, justement, la municipalité ou le département qui veille un petit peu aux financiers, mais pas que, aux décisions un peu prises au club avant qu'il y ait ces administrateurs dont vous êtes le président, pardon. C'est ça le conseil de surveillance un peu?
Tout à fait. Le conseil de surveillance a un rôle, comme son nom le dit, de surveillance effectivement par rapport aux finances et par rapport, je dirais, à la légalité, au juridique du club. Il intervient comme un conseil d'administration. Et c'est vrai que nous, c'est un statut un petit peu particulier aujourd'hui puisque la majorité de ce conseil de surveillance, effectivement, ce sont les collectivités locales et territoriales puisqu'il y a dedans la ville, il y a EPN, il y a le département
et la région
ouais. Bien évidemment, qui sont aujourd'hui plus que représentatifs dans le budget du club, puisqu'il faut quand même savoir que les deux tiers du budget du club, aujourd'hui, c'est eux qui nous l'amènent, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est en Pro B.
D'accord. Mine de rien, c'est quand même un peu mieux, il faut que vous sachiez, amis auditeurs, auditrices qui ne suivaient pas forcément la balle orange, qu'à un moment donné, pour la région, c'était compliqué. Hein, parce que je ne vous cache pas qu'au moment où il y a eu la fusion, il n'y a plus qu'une seule et belle Normandie. Ah ouais, mais les mecs, par contre, là, attention, il y a quatre clubs hein, qui jouent en Pro B. Le Havre, Caen, Rouen, Évreux. Ça devait être compliqué à l'époque pour se dire, ouais, alors comment on fait? Non, moi, j'avais promis à ce club-là que j'allais lui mettre un peu. Ah, non, mais là, attends, on a engagé avec eux. Bref, ça devait être quand même quelque chose de rigolo. J'essaye d'amener ça de manière un peu écourtée et légère, mais c'est raccourci, pardon, et légère, mais ça devait être quelque chose. Patrick, c'est pas anodin. On ne devient pas, j'imagine, moi, président d'un club de basket établi, repéré, peut-être le plus ancien. Je crois qu'avec Aix-Maurienne, ça se joue sur pas grand-chose, sur l'histoire du professionnalisme pour un club de basket, en l'occurrence la LM Évreux, hein, qui depuis les premières heures où il y a eu un virage possible, elle est devenue un club professionnel et ça fait d'elle cette belle entité, un club historique dont vraiment le milieu professionnel. Vous avez vous-même pratiqué le basket? On n'est pas obligé, parce que je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que des ministres, ils n'ont jamais le sujet qu'ils aboquent ou ils évoquent ou qu'ils défendent. C'est des sujets où ils ont peut-être lu un bouquin ou deux, trois conseillers qui sont pas mal, mais ouais, voilà, des fois, ils sont un peu largués. Vous, le basket, c'est quoi votre lien à lui?
Le basket, c'est simplement que je suis tombé dedans à l'enfance. Je suis un enfant de Jean Moulin. Je rappelle qu'avant la salle Omnisport, la salle mythique pour le club quand le club a démarré, c'était la salle Jean Moulin à la LM. J'ai été à l'école à Jean Moulin, j'ai côtoyé tout un nombre de gens, ça en fera peut-être sourire certains, dans le parc Guillard. C'est à cette époque-là, effectivement, que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Vidal. C'est aussi à cette époque-là que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Roland Plaisance, qui sont les fondateurs du club et avec lesquels, effectivement, j'ai cheminé, j'ai parcouru. Moi, ce club, il m'a amené beaucoup de choses. J'ai pu côtoyer beaucoup de gens, aussi bien des éducateurs que des joueurs à côté de moi qui sont devenus professionnellement et qui m'ont montré la différence entre le sport, je dirais, et le professionnalisme au niveau, je dirais, des tâches. Parce que j'avais la chance à l'époque d'être avec des gens qui ont fini médecins, chirurgiens, directeur d'entreprise, prof d'éducation physique. À l'époque, on n'était pas en sport professionnel, on était amateur, on s'entraînait quasiment tous les jours. Puis j'ai la chance aussi de côtoyer à l'époque des joueurs absolument exceptionnels. Moi, j'ai vécu l'époque Léon Clark.
Tout le monde en parle à Évreux, j'ai pas connu moi, mais voilà, il faut savoir qu'à Évreux, c'était la légende. La première légende, c'est Léon Clark, hein, clairement, parce que c'est le nom qui revient.
J'étais le deuxième meneur de jeu, puisque le premier meneur de jeu était un joueur historique, c'est Sylvain Granca d'ailleurs, qui, Sylvain, a fait une carrière assez exceptionnelle, puisque en partant d'Evreux, il a joué à Antibes, il a joué à Limoges, il a porté le maillot de l'équipe de France.
J'osais pas l'annoncer, mais oui, vous
me confirmez. Faut pas l'oublier. Ouais, on a un certain nombre de joueurs, effectivement, qui après sont sortis de l'école de basket d'Evreux, mais le premier, c'est quand même Sylvain Granca, qui l'a été longtemps. Sylvain est toujours présent aujourd'hui. Continue à collaborer avec nous.
Et venir au gymnase, hein, à la salle, parce que je l'ai vu vendredi soir. Ouais, il a toujours un œil aiguisé, ça, hein, on sait de qui on parle, voilà, quand on connaît un peu Évreux. Mais merci de rappeler ça, parce que c'est vrai qu'on avait déjà des fondements, des signaux, des prémices à ce que, justement, Évreux et son basket et son club de basket mythique, voilà, aujourd'hui, soit toujours en place. Mais c'est juste fou tout de même de revoir ces noms qui étaient déjà présents. Donc vous l'avez porté cette tunique, et c'est bien de le souligner et de le rappeler. Mine de rien, c'est pas, vous auriez pu être entre guillemets un passionné, mais qui venait d'une autre ville, ou avoir émigré d'une autre région. Et non, vous êtes en plus un pur produit. Du coup, ça a dû vous titiller un peu quand il y a eu cette possibilité. Ça a dû vous chatouiller et presque peut-être vous donner beaucoup de plaisir avant de... Bah, ça doit être une sacrée tâche. Hein. N'ayons pas peur des mots, surtout dans cette période de fou. Mais de ce fait, voilà, moi, prenant la température justement de votre histoire à ce club, le jour où vous avez la possibilité de devenir président, c'est quand même quelque chose pour vous, non ?
Oui, c'est vrai. Et puis ce club m'a tellement apporté que je voulais redonner un peu de ce qu'il m'avait apporté. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que si ce club en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu la chance à un moment donné d'avoir un maire comme Roland Plaisance, qui a souhaité effectivement que l'équipe de basket devienne une équipe professionnelle. Vous le soulignez tout à l'heure, avec Aix-Maurienne, on est un des clubs les plus anciens.
Je crois que c'est les deux.
Ça fait 34 ans qu'on est depuis la création de la Ligue nationale de basket, on est dans ce circuit professionnel. On est plus effectivement en Pro B qu'en Jeep Elite. Mais après, c'est des questions de budget. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais je dirais que Évreux, la ville, l'aglo peuvent être fiers effectivement d'avoir une équipe qui encore aujourd'hui est à ce niveau.
On ne l'a pas précisé, certains d'entre vous connaissent peut-être cette salle mythique où il fait un petit peu froid, mais qualifiée de chaudron, hein, par des joueurs qui sont encore en exercice. Cette salle qui aujourd'hui résonne un peu plus creux, voilà, forcément liée à la situation sanitaire, mais par contre, c'est un lieu où en temps normal, le vendredi, le samedi, alors c'est depuis quelques mois et années le vendredi soir, il y a quasiment 2500 personnes. Elle est pleine, cette salle. Alors, il faudrait vraiment une série de très mauvais résultats pour qu'il y ait une centaine ou deux de moins dans la salle. Mais il y a toujours, elle est toujours quasiment complète, cette salle, où il règne une ambiance incroyable. C'est un rendez-vous. Et les gens viennent du département entier. On peut imaginer Évreux, bien sûr. Oui, il y a une proportion importante d'Évreuxiens et Évreuxiennes qui viennent, ou du Grand Évreux agglomération. Mais je connais beaucoup de gens qui viennent de Bernay, de Louviers, de Pont-Audemer, pour venir encourager cette équipe dans laquelle ils s'identifient. Hein. C'est vraiment un peu le fagnon, quand même, mine de rien, dans le département en sport professionnel. Je ne suis pas sûr. On a d'autres disciplines qui sont bien représentées. On a d'autres clubs qui font un gros, gros travail et n'en déplaisent à celles et ceux qui sont dans le milieu davantage amateur. Mais il est toujours bon d'avoir des fleurons parfois. Et en l'occurrence, c'est l'ALM qui remporte cette palme dans le département. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus fort.
Non, il n'y a pas plus haut. Je dirais que vous parliez du public. Je crois qu'on a toujours été considéré à Évreux, depuis qu'on est dans le milieu professionnel, comme un des publics les plus chauds. En tout cas, au niveau de la Pro B, on le sait, quand les clubs viennent, ils savent qu'on a vraiment derrière nous un vrai public et que ça peut jouer dans les matchs. On a la chance d'avoir un public de connaisseurs. Ça, c'est une chose. On a la chance d'avoir également un sixième homme. Il faut savoir que ces gens-là sont toujours derrière nous. Que ça marche bien ou que ça ne marche pas bien.
Ils sont présents, ouais.
Que l'on gagne ou qu'on perde, ils sont toujours derrière nous. On a la chance d'avoir effectivement un bon corps d'abonnés, pas assez nombreux pour nous effectivement, mais il y a 130 à 150 personnes effectivement qui s'abonnent toutes les saisons. On aimerait en avoir plus. À nous effectivement de donner envie aux gens de s'abonner. Et puis on a également nos partenaires privés. Parce que les pouvoirs publics font beaucoup de choses pour nous, mais ouais, sans les partenaires privés, on n'y arriverait pas. On le voit depuis deux saisons avec le problème de la Covid. Il faut savoir qu'on est une entreprise, on souffre, mais nos partenaires privés également souffrent. On en a perdu un certain nombre entre la saison dernière et cette saison. Et moi, je tiens à tirer un grand coup de chapeau aux partenaires privés qui ont accepté de rester avec nous cette saison. Sans eux, on ne serait sans doute plus là aujourd'hui. Et je pense que le fait de toujours cautionner le fait d'être partenaire à la LM Évreux, ça veut dire l'engagement. Je rappelle également autre chose. Quand j'ai pris la présidence, j'ai souhaité qu'on fasse une extension au nom du club, ALM Basket Évreux Heure. C'est pas pour rien, vous en parliez tout à l'heure. Je pense qu'on est le premier club effectivement sportif professionnel. Je souhaite en tout cas, petit clin d'œil aux filles du volley. Je souhaite qu'elles montent cette saison.
Ah oui, pardon.
Elles ont encore gagné ce week-end. Moi, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un club masculin et un club féminin en sport collectif au haut niveau pour Évreux. Ça montre qu'il peut y avoir deux clubs et que ça ne pose aucun problème. Mais je dirais que pour revenir effectivement à l'aspect du club, si on veut trouver effectivement demain des finances privées, il faut qu'on s'étende. L'agglo d'Évreux n'est pas assez grosse. Vous parliez tout à l'heure de Rouen, de Caen, du Havre. Ouais. Qui sont des clubs professionnels.
Et où il y a un bassin d'entreprise plus conséquent aussi.
Tout à fait. Ils rayonnent sur des bassins d'entreprise entre 300 et 400 000 personnes. Nous, on a un bassin d'entreprise qui est à 90 000, 100 000 personnes. Le fait de s'identifier, si on arrivait à ce que le département et les entreprises du département s'identifient au club de basket d'Évreux, serait un vrai plus pour le développement et la pérennité du club.
Affaire à suivre, on va s'accorder une petite pause musicale. Si vous venez de nous rejoindre, amis auditeurs, auditrices, on est en compagnie de Patrick Roussel, président de l'ALM Évreux Basket, qui reste en plus là quand même. Quand j'ai été sollicité vendredi soir, j'étais quasiment sûr qu'il ne pouvait pas me refuser. Parce que, mine de rien, on va parler deux secondes sportivement, parce qu'on part en musique, mais on va revenir sur le sujet. Évreux a battu le leader, quoi. Incroyable, mais vrai. Et je vous dis la vérité, hein. Je suis en chou en termes de pronostics. J'avais prévu une valise. Oh, moins 15, moins 18, ils aiment bien mettre ça, blois aux adversaires du soir. Eh ben non, l'ALM Évreux, tant mieux, m'a fait déjouer et surtout a produit un magnifique match de basket avec des actions incroyables. Et puis, une victoire sur le leader du championnat. Ce n'est pas rien, mesdames et messieurs, dames. C'était vendredi soir, soyez curieux, allez voir sur les internets, on peut retrouver des images. Allez, on s'accorde une petite pause musicale et on se retrouve, on est, je vous l'ai dit, avec Patrick Roussel de l'ALM Évreux, basket, heure, et ça fait plaisir. Dracule, monsieur, c'est le fils de Malonga, casque lourd, qui perpétue les traditions folkloriques congolaises, s'il vous plaît, dans le sillon de son père, célèbre ambassadeur de la danse centrafricaine aux États-Unis et fondateur de la Fouadia Congo Performance Dance Company, s'il vous plaît, l'Omani, avec ce morceau de Kiazi Malonga. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, c'est tout frais et les percus, ça sonnait très bien sur ce titre.
C'est l'or, il est l'or. L'or de se réveiller.
Le plaît reste à venir.
Le plaît reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
C'est nous et c'est bien nous. Est-ce que le 10 est présent? Bonjour.
Hein? Quoi?
Allô?
Non.
Allô?
Hein? Excuse-moi. Je fais. Bon. Il y a des trucs, c'est tellement relou que vraiment. T'as pas envie d'en parler. Et en même temps, tu sens qu'il va falloir en parler. Hein, on peut pas tout mettre sous le tapis et partir comme ça en sifflotant, les mains derrière le dos, le menton un peu relevé en direction de l'horizon, comme ça. Non. Mais franchement, c'est un sujet pas très sexy. Hein. Et puis les écolos, hein. Ouais, je vais donner l'avis d'écologiste, mais... Non mais attends, mais reste, il va y avoir de la baston, du sang, des larmes, de la sueur quand même. Ça va être... comme ça. Alors, en fait, tous les gens sérieux semblaient être d'accord il y a quelques années, c'était incontournable, il fallait contourner. Face aux embouteillages, à la pollution engendrée, aux risques encourus avec des chargements dangereux qui traversaient la ville... La ville de Rouen, évidemment, on se souvient du pont Mathilde détruit par un feu provoqué par l'accident d'un camion il y a quelques années, par exemple. Donc, en toute logique, une seule solution, il fallait, comme dans beaucoup de villes, ce qu'on appelait alors une rocade, un contournement, ou plutôt le lien entre l'autoroute A13 au sud venant de Paris et l'A28 qui remonte vers le nord de l'Europe. Et alors, après d'âpres négociations, discussions, dossiers d'études, des piles de paperasses qui ont voyagé entre la Normandie et Paris, par décret pris après avis du Conseil d'État publié au Journal officiel de la République française du 16 novembre 2017, naissait le projet de liaison A28 A13, donc contournement est de Rouen, futur A133 et A134, déclaré d'utilité publique. Et puis, les militants associatifs ont fait leur travail. Mais alors, un vrai travail, hein, pas un truc où tu prends la posture et puis ensuite tu dis d'un ton ferme, tu sais, celui de celle ou celui qui sait de quoi il ou elle parle, la voix de l'autorité, quoi, qui dit que c'est comme ça, et c'est tout. Hein? Pardon, je suis covidé. Laisse les gens sérieux décider, petit. Toujours ce paternalisme à papa, quoi. Vous savez, ces industriels et leurs amis qui pensent que dans la vie, il n'y a justement qu'une autoroute sur laquelle on doit foncer tout droit parce que c'est bien connu, la ligne droite, c'est le plus rapide, c'est le plus efficace, c'est le plus économique. Ben oui, mais c'est aussi le moyen peut-être le moins subtil. Le moins curieux, la façon de voyager qui élimine la rencontre fortuite avec une place de village. Le voyage sans saveur, avec le bruit du moteur monotone, sans possibilité de croiser une région, ses paysages, ses habitants. Non, le bitume et les stations essence. Mais le monde de l'industrie n'en a cure de la sensiblerie. Hein. Le monde de l'industrie, de l'entreprise, son truc, c'est de faire de l'argent, de créer de l'activité, de faire fructifier le territoire au mieux, d'envoyer toujours plus de camions, de bateaux, transporter toujours plus de marchandises, sans réfléchir à quoi que ce soit, puisque les solutions sont simples. Tout ce qui va à l'encontre du profit, tout ce qui bloque la grande marche en avant de la production, de l'achat et de la vente de trucs, doit terminer au bûcher pour nous laisser faire des affaires tranquilles. Tu comprends? Regarde. Regarde l'agroalimentaire. Je vous conseille d'ailleurs la grosse malbouffe à voir en ce moment sur Arte. Tout est bon pour que les aliments coûtent le moins cher possible. c'est pour qu'on se dise, ah bah moi je fais des affaires, je vais dans les grandes surfaces, je achète. Ah ça, ça coûte pas cher, moi j'ai pas beaucoup de sous. Là, alors comment on fait pour que ça coûte pas cher? Ben, on transforme. La transformation, la recomposition, l'addiction d'additifs pour faire comme si, pour que ça goûte mieux, sucré, salé à outrance, que ça brille, que ça se conserve mieux, que ça prenne la place de la matière brute. Alors ben, on ajoute plein de trucs en fait. On ajoute plein de trucs. On ajoute des colorants, des conservateurs, des antioxydants, de l'émulsifiant, de l'épaississant, du stabilisant, du gélifiant, des régulateurs du pH, de l'hélicitine, des lactates, des citrates, des tartrates, des orthophosphates, des malates, des adispates, des alginates, des gommes, des dysphosates, des triphosphates, des cyclodextrines, des dérivés celluloïques, des dérivés d'acides gras alimentaires, des carbonates, des chlorures, des sulfates, des hydroxydes, des ferrocyanures, des phosphates, des silicates, des stératates, des gluconates, ouais, exhausteurs de goût, des glutamates, des ganilates, des inosinates, des cires et des hydrocarbures. Ah, on ajoute tout ça dans ce que tu manges. Bon bref, on le sait bien, c'est pour notre bien qu'on ajoute tout ça. C'est pour que ça ait bon goût et que ça coûte pas trop cher. Et puis les élus, les militants politiques, les politiciennes et politiciens qui soutiennent ce monde industriel sans conscience, ce sont ces humaines et humains qui pensent le monde à l'ancienne, comme si rien n'allait changer, installés dans leur certitude un peu ringarde aujourd'hui, ouais c'est vrai. Mais c'est eux qui ont souvent l'argent et le pouvoir, et ils veulent rien lâcher les coquins, hein. Et puis tout à coup, parmi ces autorités naturelles, des voix se sont faites divergentes. Le cerveau nourri par le travail associatif des militants écologiques. Bon, alors moi, honnêtement, le contournement Est, je ne vais pas vous dire que je suis pour ou contre, parce qu'en fait, je ne me suis pas assez renseigné. Je sais qu'un vote ce soir aura lieu à la métropole de Rouen pour savoir la position qu'elle va prendre, cette métropole. La mairie de Rouen s'est déjà positionnée contre, alors que l'État semble plutôt pour. Un dossier de 30 ans. Et dernièrement, la Chambre de commerce et d'industrie qui commande un sondage paru dans le journal Paris-Normandie qui dit que les habitants de la métropole sont majoritairement pour ce contournement. Ce à quoi répondent des associations comme Effet de Serre Toi-même. La population sait-elle que cette autoroute A133, A134 ne désengorgera pas Rouen, apportera 50 000 tonnes de CO2 en plus par an, sera chère, grandement financée par l'impôt et sera payante? C'est aussi le questionnement des maires de Léry, d'Alizé et de Saint-Pierre-de-Vauvray. Nous sommes en 2021, agissons pour des solutions adaptées aux besoins de transport, en adéquation avec les urgences écologistes et sociales, vraie réalité du moment. Voilà ce que nous disent ceux qui sont contre ce contournement. Et ils poursuivent avec cette histoire de sondage paru dans la presse. Nous accusons la Chambre de commerce et d'industrie d'être malhonnête intellectuellement et de jouer sur la méconnaissance de nos concitoyens. C'est Effet de Serre Toi-même qui dit ça, donc l'association, qui regrette que le péage, le kilométrage et le coût, qui sont tout de même trois éléments minimaux d'appréciation de n'importe quel projet, n'aient pas été abordés dans l'étude IFOP. Bref, ah, il y aurait de la manipulation dans l'air. Ce qui me donne l'occasion de vous parler d'un livre intitulé « Les gardiens de la raison enquêtent sur la désinformation scientifique ». Excusez-moi, je suis désolé, je suis malade. Les années 2000, dit ce livre, ont vu déferler les mensonges des industriels du tabac, des énergies fossiles ou des pesticides et leurs études commanditées dissimulant la dangerosité de leurs produits. Les effets de la désinformation sont de plus en plus documentés et ce livre, donc, montre à quel point la manipulation des scientifiques s'affinent pour se diffuser dans l'opinion et chez des influenceurs et dans les grands médias. Les grandes industries génératrices de risques environnementaux ou sanitaires produisent beaucoup d'idées, d'éléments de langage, d'argumentaires qui diffusent largement dans la société et génèrent beaucoup de confusion dans le débat public, explique Stéphane Foucard qui a écrit ce livre. Et c'est toute la difficulté, dit-il, de traiter ce sujet sans sombrer dans le complotisme. On voit une grande convergence dans les discours et les postures de tout un tas d'acteurs qui ne sont pas mus par les mêmes logiques, les mêmes objectifs, les mêmes priorités. Bah oui, chacun a un regard différent sur le monde, sans doute, c'est ce qu'on appelle la politique. Un peu. En tout cas, tout cet argent qu'on voudrait mettre dans ce contournement, si on le mettait dans les transports en commun, aujourd'hui on parle de hub, des lieux de croisement, où on arrive en vélo, en train, en bus, en métro, où on peut changer le moyen de locomotion pour poursuivre son chemin le mieux possible, pour développer aussi le transport maritime ou ferroviaire, pour faire voyager les objets, les produits, bref, pensez 2021 plutôt que 1980, quoi. Donc là, j'ai quand même donné un peu mon avis. Bon, si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller voir le site contournement-est.fr. Vous y trouverez toute l'histoire et toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le truc. Alors c'est marrant parce que je sais que parmi les oreilles qui se tendent, il y a des gens qui pensent « Ah ouais, les écolos, les relous !» Et ça me fait penser à un texte que j'ai vu passer sur les réseaux il y a quelques jours sur le site également havingfun.fr. Parce qu'on aurait pu dire de ces relous de défenseurs de la nature et de l'environnement, on pouvait dire aussi qu'ils sont pour la décroissance, qu'ils demandent une politique plus participative, qu'ils appellent à consommer moins, qu'ils veulent qu'on se reconnecte au vivant, qu'ils veulent qu'on se mette au vélo, etc., etc. En fait, les écolos sont chiants parce qu'ils ont raison, en fait. Ouais. Ils disent des vérités qu'on ne veut pas entendre. Ils veulent impacter notre quotidien, en fait. Ils veulent qu'on change nos façons de vivre, nos habitudes, notre consommation, notre système économique. Bah oui, l'écologie va impacter nos quotidiens. Seule solution pour que les choses aillent dans le bon sens, en fait. Le voyageur devra se modérer sur l'avion. Le passionné de mode devra dire adieu à la fast fashion. Le geek devra se calmer sur les gadgets high-tech. Le viandard devra ralentir sur les barbecues. Chacun, chacune sera impacté et devra se remettre en question, changer ses habitudes, revoir ses priorités. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais. À nous de faire de ces changements obligatoires un monde enviable qui nous permette de mieux vivre. C'est pas d'un contournement dont on a besoin. C'est d'une bifurcation.
Hey, hey, on est dans le flow, numéro B à la prod, Issa, moi-même Alvin, pour les tontons, les tontines, yeah. J'suis teinté, teinté comme les vitres, t'as du mal à me cerner, un thé. Ligeant sur le rinté, golo canté, mon endurance va les éreinter. C'est vrai qu'on souffre, mais pensez pour mes noirceurs. À chaque souffle, j'intensifie ma noirceur. Si j'ai les sous, j'pars vivre dans un manoir seul. Noblesse oblige, donc appelle-moi noirceur. Fier comme James, brille comme James. Un beat comme j'aime, free comme jazz. C'est quoi les jazz? C'est quoi les bilocos? Teinté comme dans Tintin au Congo, t'entends? Le bruit et l'odeur de ma soul depuis l'enfance. Ma rage créatrice veut lancer l'assaut. On arrête de jouer au con, reconstruit les ponts. Figurer d'autres plans que de s'envoyer du plomb. D'encore. Dans le cœur, ce qui a dansé, c'est ce qui compte. Continuer à danser sur ce qu'on donne. Teinté mais pas opaque, on voit comme Dame dame mais pas opaque. Dans le cœur, ce qui a dansé, c'est ce qui compte. Continuer à danser sur ce qu'on donne. Teinté mais pas opaque. Comme tam tam et baobab.
C'est pas carré comme télécathodique. J'en ai vu des gars va fuir pour un tas de taudis. On les voyait tous faire, mais en vrai, qu'a-t-on dit? Y'a vraiment que le tout puissant que je peux casse dédié. Contorsion dans des cases débiles, rafale de coups qu'on encaisse depuis. Solo noir comme as de pique, j'camberge depuis le temps d'époque. Y'a que chez le tatou que supporte les pics. Ah, c'est là même après tant d'époque. Donc bon, faudrait peut-être casser le cercle, pousser le poivre et caser le sel. Mettre du piment en bouche en cas d'excès. Crois pas que tu peux me ranger dans ton putain tableau Excel. Non, je suis derrière clavier, c'est moi qui avertis. Averti, gros t'es averti. C'est moi qui avertis.
Dans le cœur, ce qui a dansé, ce qui compte. Continuer à danser sur ce qu'on donne. Teinté mais pas opaque, on voit comme Dam dam mais pas opaque. Dans le cœur, ce qui a dansé, ce qui compte. Continuer à danser sur ce qu'on donne. Teinté mais pas opaque. On voit comme Dam dam mais pas opaque.
Teinté, morceau dénonçant le racisme ainsi que les stéréotypes visant les personnes noires. AL2O ainsi que Isa adoucissent les mœurs avec leur titre Teinté en compagnie du beatmaker numéro B, ça vient de tomber. Et en fait, si vous prêtez attention, la qualité textuelle est aussi au rendez-vous. Tiens, c'est marrant comme quoi j'ai passé juste après le liseux. Il pouvait avoir un pont commun.
Le bien reste à venir.
Oh, doucement, doucement.
Le pire reste à venir.
La matinale de Principe Actif et d'HDR.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
C'est nous, et c'est bien nous, depuis 8h pétantes, passées de quelques secondes, nous sommes en compagnie de Patrick Roussel, ami auditeur-auditrice, qui est le président du club de basket de l'ALM Évreux. Alors oui, j'ai essayé de joindre son homologue rouennais, comme je l'ai fait lorsque j'ai eu les coachs, mais pris un peu de cours, et peut-être pas dans la même ambiance, puisque malheureusement, Rouen s'est incliné ce week-end. Mais je pense qu'en fait, vous seriez quand même peut-être venu, Patrick, si on avait perdu contre le leader blésois.
Oui, de toute façon, je serais venu parce que je trouve très sympathique votre invitation.
Eh bien, tant mieux, Patrick. Patrick, on a parlé un petit peu de vous et je vous remercie sur, tiens, comment est constitué l'ALM Basket. Voilà, un conseil de surveillance, un conseil d'administration. Vous êtes président de quatre administrateurs, c'est ça, en gros ?
Directoire, où il y a quatre personnes.
Et puis, voilà, entre les joueurs salariés du club, voilà, avec des contrats. Alors, le basket professionnel, on rappelle, c'est très rare qu'on aille sur des contrats de 3, 4, 5 ans, comme parfois on voit dans le football. C'est souvent des contrats d'un an, très souvent, même si maintenant se développe de temps en temps des deux ans. D'ailleurs, par exemple, ou des reconductions hein, de joueurs et de contrats. Et puis, on a parlé aussi des salariés du club sur la partie administrative, Quentin, Simon, Terence et Delphine. La LNB, vous y siégez depuis maintenant quasiment deux saisons, président. Il faut savoir que lorsqu'il y a des réflexions, des décisions à prendre, sont réunis les présidents des différents clubs de JP Elite, donc la Pro A, le premier niveau national, et de Pro B qui nous concerne. Si je ne m'abuse, il y a deux voix lorsqu'une décision doit être prise pour la JP Elite et une seule pour la Pro B.
Tout à fait. Dans cet organe, il y a 36 clubs professionnels, donc 36 présidents qui effectivement ont des voix, plus un certain nombre d'autres personnes. Au total, je crois qu'il y a plus de 60 voix pour prendre des décisions. C'est vrai que nous, aujourd'hui, en Pro B, moi, j'ai été surpris, je le savais déjà, avant de prendre ce poste, mais on peut quand même être surpris du fait de voir que la JP Elite a deux voix et que la Pro B n'a qu'une voix. C'est-à-dire que quand on demande un vote sur quelque chose de la Pro B, de toute façon, la JP Elite est majoritaire. Les esprits sont en train de changer. Je crois qu'on a la chance d'avoir également mon homologue à Rouen, Yvan Gueder, qui est effectivement au comité directeur de la Ligue, qui milite, comme nous autres, les autres présidents de club, pour que l'on puisse avoir le même nombre de voix, en tous les cas pour ce qui est des votes qui concernent la Pro B.
Ah oui, ça paraîtrait cohérent. Alors, petite particularité déjà, est-ce qu'il y a des femmes dans ces présidentes? Il n'y a pas de femmes,
hein? Il n'y a aucune femme présidente,
Il y a quelques temps, je crois, il y avait une... À Charleville-Mézières, alors elle était peut-être directrice. Hein. Comme nous, on a eu Elsa Toffin, elle n'était même pas présidente, hein, je crois.
C'est Audrey Sauré qui était à Charleville-Mézières, qui aujourd'hui est à Nantes, qui est manager général.
Ah d'accord, donc, mais pas présidente. Et du coup, pas de femme.
Aucune.
Bon, bah, c'est tout bête, hein, ami auditeur, auditrice. Hein. Vous porterez le jugement que vous voulez. Ou l'intention qu'on porte, forcément, parce que c'est vrai que parfois, on peut retrouver des femmes dans des présidences de clubs féminins. Mais en fait, il se trouve que même dans les clubs féminins, on trouve très souvent des hommes. Voilà, là, je titille pas votre ego à vous, Patrick Roussel, président de l'ALM Évreux. J'interpelle plutôt la conscience générale à me dire quand même, c'est fou. Même si je suis pas je veux pas qu'on place pour placer, j'aimerais peut-être, non pas la parité, c'est pas ça, parce que c'est dur de passer de 0 à 36 clubs.
36 clubs.
18 femmes, mais au moins un temps soit peu. C'est bizarre et étonnant. La LNB, on l'a dit. Comment ça se passe avec vos homologues? Ça va d'ailleurs avec Rouen, Monsieur Gueder, avec ceux de la région, ou est-ce que vous avez créé des liens avec certains présidents de club? Ah ouais, il se trouve, tiens, Damien, vous me posez la question. Avec le président de Saint-Quentin, je suis copain comme cochon. Non, mais est-ce que ça a lié des petites relations? Est-ce qu'il y en a justement? Parce que forcément, on est tous différents face à des situations, à des décisions. Il y a notre parcours de vie qui rentre en compte à un moment donné. Est-ce que justement, voilà, il y a un ou deux présidents avec qui ça a matché ou pas?
Bah, avec Yvan Gueudère, ça se passe très très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir de très bonnes relations avec Yvan. En plus, il est là depuis longtemps et je n'hésite pas effectivement à prendre conseil auprès de lui. Parce que moi, je suis un tout nouveau président. J'arrive, je dirais, dans cette grosse machine qu'est la Ligue nationale de basket. Et puis, on échange de plus en plus. Je crois que les clubs de Pro B essaient un petit peu de, je dirais, de s'organiser eux-mêmes. Et n'hésite pas, on n'hésite pas à échanger, à se rencontrer. Là, la Covid nous permet non pas de nous rencontrer, mais de faire de nombreuses visios et de pouvoir échanger. Et ça, c'est un vrai plus.
Pas simple cette situation, forcément, on va l'évoquer deux secondes, Président. Je crois que j'avais assisté à une des premières conférences de presse qu'il y a eu en ce début de saison. On venait déjà d'avoir une saison tronquée, pour rappel 23 matchs l'an passé, la saison s'est terminée. Là, si on regarde le classement, le championnat, il y a un nombre différent de rencontres faites par certaines équipes et d'autres. Voilà, c'est juste incroyable. Là, Quimper a un peu rattrapé le truc, mais alors que la majorité des clubs avaient fait 3, 4, 5 matchs, Quimper n'en avait pas encore eu à son actif. Alors, c'est parce qu'ils ont été très impactés à un moment donné où le championnat avait démarré sur la Covid. Cette situation, donc, on en avait parlé, forcément ça change beaucoup de choses pour vous, avec des tests réguliers nécessaires, c'était même très flou en début de saison, mais je ne critique en rien qui que ce soit, c'est juste que il fallait se tester, il fallait avoir les résultats avant le début de rencontre. D'ailleurs, si on suit vraiment le basket qu'on a maintenant en NBA, c'est un peu la même chose. Il y a eu des histoires incroyables avec de ce joueur, je ne sais plus, Chalon de Limoges, qui commence un match mais qu'on lui dit encore de s'arrêter. Bref, ça provoque des situations incroyables. Mais aussi, ça provoque d'autres choses. C'est que, on l'a évoqué tout à l'heure, salle d'Evreux, c'est une salle emblématique avec un public incroyable. Il y a eu un match où on pouvait être en distanciel, c'est-à-dire que le public est accepté. Il y a eu 300 ou 400 spectateurs qui sont venus. Depuis, on a redécidé autrement. On va pas refaire l'histoire non plus, mais voilà, il y a un grand impact financier aussi. On se met à votre place, la billetterie en moins. C'est peut-être aussi, c'est la buvette en moins. Comment ça va? Est-ce qu'on garde la tête hors de l'eau grâce aux partenaires privés là, que vous remerciez tout à l'heure et qui gèrent? Est-ce qu'on a fait des concessions? Est-ce que l'État fait un coup de pouce? Comment ça se passe?
Déjà, il faut savoir que cette saison, on est parti du constat qu'on ne pouvait pas avoir le même budget que la saison passée. Donc, on a été obligé de diminuer le budget. Et puis, en ce qui concerne, je dirais, ce que nous propose l'État, l'État, effectivement, a accepté, puisqu'on est sport professionnel, on a été un peu comparé à la culture. Donc, on est un petit peu dans le même bateau que la culture. On reçoit du public. Aujourd'hui, on peut pas avoir notre public. L'État essaie de compenser en nous allégeant au niveau des charges. Mais il faut savoir que c'est pas suffisant. On a accepté, nous, club professionnel, de jouer un certain nombre de matchs à huis clos. On sait que notre modèle économique ne peut pas tenir jusqu'à la fin de la saison si on continue comme ça. Il y a une assemblée générale des clubs Jeep Elite et Pro B le 22 février.
Mais c'est le 17 qu'il y a plein de scénarios qui vont être mis à plat, si je ne m'abuse.
Alors, le 17, il y a effectivement deux réunions. Une réunion avec les présidents de Jeep Elite pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, eux. Une réunion également avec les présidents de clubs de Pro B pour savoir ce que nous souhaitons faire. Et la décision sera prise collectivement le 22 février. Est-ce qu'on continue le championnat? Est-ce qu'on ne le continue pas? Nous, on souhaite effectivement continuer le championnat. L'équipe, c'est terrible pour l'équipe. Les joueurs, le staff, ils s'entraînent. Là, aujourd'hui, on a terminé samedi soir. On ne sait pas quand est-ce qu'on joue. Donc, il faut aussi se mettre dans l'état d'esprit, je dirais, des clubs. C'est compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'économiquement, il faut qu'on trouve des solutions, parce que si on ne trouve pas de solutions financières ou si on ne trouve pas des compensations, et ça, c'est dommageable, on n'y arrivera pas financièrement. Et il y aura de la casse à la fin de la saison avec un certain nombre de clubs qui ne pourront pas terminer correctement la saison.
Alors, je ne sais pas si c'est que lié à cela, mais en Italie, il y a déjà des clubs qui se cassent la binette. Alors, parfois, il y a aussi, on est l'héritage d'une gestion qui est un peu trouble. N'empêche que là, il y a des clubs qui ont déposé le bilan en Italie, des clubs professionnels, j'entends. Évreux, par contre, a toujours eu la réputation d'avoir quand même une gestion saine, peu trouble, peu opaque. Mais il n'empêche que voilà, elle est face à une réalité qui fait qu'il y a moins d'argent qui rentre. Et ça, c'est un constat simple et facile à relever. On parle de cette équipe... ces joueurs, ces gladiateurs, hein, normalement c'est une arène, je ne vais pas faire de poésie de bas étage, mais voilà, ils marchent aussi à l'affect, ils peuvent être portés par un public, ils peuvent... Enfin, je veux dire, les mecs jouent à huis clos depuis... Ils s'entraînent à huis clos, jouent à huis clos. Alors, heureusement, il y a les caméras, il y a la LNB TV qui permet aujourd'hui d'assister à toutes les rencontres de Jeep Elite, donc, et ou de Pro B, mais derrière un écran, ce n'est pas la même chose. Comment ils ont envie de jouer, eux ? Comment c'est ? Parce que c'est leur métier, c'est leur cœur, c'est leur passion. Qu'est-ce qu'il vous faut remonter ? Est-ce qu'il y a des choses très surprenantes qui vous ont partagé, confié ou qu'on vous a susuté à l'oreille qui sont incroyables ?
Bah vous savez, comme tout sport professionnel, quand vous avez la chance d'être un sportif professionnel et que vous vivez de votre passion, c'est quelque chose d'abord d'extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont frustrés. Ils ont l'habitude de jouer devant un public. Ils ont l'habitude d'avoir des moments émotionnels forts. Vous prenez le match de samedi dernier contre Blois. Ils sont très heureux. Ils ont fait la fête. Ça s'est vu sur les réseaux sociaux, dans le vestiaire. Mais ils auraient tellement voulu, effectivement...
Le partager avec le public.
Le partager, le saluer, remercier le public. Ça aurait été quelque chose d'absolument extraordinaire. La victoire contre Rouen, même chose. Voilà. On en parlait avec Yvan Gueder. On sait que le derby rouennais, que ce soit chez nous ou chez eux, ouais. Les deux salles sont pleines. Ouais. C'est des moments, effectivement, de partage et de convivialité qu'aujourd'hui, on ne peut pas retrouver. C'est vraiment très frustrant.
Ouais, il n'y a pas ce plaisir et cet échappatoire possible pour les spectateurs, mais surtout pour ces acteurs qui contribuent à nous proposer ça. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ça fait quand même 3 mois que la Ligue vous repropose, après concertation et proposition émanant des présidents, bien sûr, mais il y a aussi eux qui font des propositions. En fait, c'est 2 matchs par mois. En gros, on est là depuis 3 mois, on est là-dessus. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Il y a eu des petites incartades. Là, c'est vrai que certaines équipes ont pu faire 3 rencontres sur les 15 jours, au mois de janvier, d'ailleurs, il y a eu 4 matchs hein, pour la LM Evreux.
Oui.
Mais au mois de février, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais il y a une trêve. Donc, c'est le 17 ou le 22 qu'on va savoir à quelle sauce on va être mangé, si oui ou non on continue la saison ou non.
L'idée, ça a été de se dire, on va jusqu'au 15 ou 20 février pour avoir à peu près tous le même nombre de matchs, pour avoir un classement qui ressemble à quelque chose.
9 rencontres pour la LM Evreux.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup, hein, sur 34 possibles.
Au maximum, je dirais que les clubs qui jouent le plus en auront 10. Ce qu'on a demandé à la Ligue aujourd'hui, c'est de nous faire un calendrier prévisionnel, même s'il est théorique, même si on se dit qu'on n'ira peut-être pas au bout du championnat, mais d'avoir une vraie visibilité, une vraie lisibilité. Et normalement, ils devraient pouvoir nous proposer un championnat à partir du 10 ou du 15 mars, avec quasiment 2 rencontres par semaine.
Ouais, ça pourrait presque faire des mois à 8 matchs, quoi.
Quasiment.
Bon, allez, on verra. Allez, on va essayer de voir si ça fonctionne. Il y a un truc marrant qui peut être fait, là. On va voir si ça fonctionne, on va voir si ça s'entend. On écoute 2 secondes.
Le bon leader de Steve Kingman, la bonne passe de Fabien Pachal.
C'est seulement son deuxième ou troisième panier parce qu'il a dû mettre un lancer franc, Steve Kingman, et il n'arrive pas au pire moment. 71-66, il y a 2 possessions d'avance. Yornan Zamora qui est bien sorti sur Tyron Johnson, mais pas Yonou Barrueta. Et
Zamora
qui était bien sorti pour gêner la tentative à 3 points de Tyron.
D'ailleurs, Evreux n'est pas en difficulté ce soir sur le rebond. C'est des fois un petit péché mignon.
Ouais,
faudrait voir du côté des statistiques, mais la sent plus en place ce soir.
C'est même très souvent le cas, Antoine.
Que d'habitude. Oh là là, on passe directement dans les mains de Thomas Corneli. Il s'est complètement trompé, Yornan Zamora. Oh là là, l'autre. Thomas Corneli qui va ramener son équipe tout seul.
Je lui tire mon chapeau, Antoine. De main gauche, je l'ai déjà relevé. Parce que là, il ne s'est pas dégonflé. Il se saisit du ballon. Il remonte le terrain. Il y va avec ce fameux lay-up tout en finesse, en bout de doigt. La balle monte sur l'arceau. Il a la possibilité de revenir avec un complémentaire. Une action à 3 points peut-être. pour lui, il la mériterait. Eh ben, il la obtient et la convertit. C'est très bien joué, Thomas. Bravo à 71-69.
Allez, toujours une possession d'avance pour Évreux.
Sauf les 2 minutes, Antoine. 1:40 à jouer.
Mais par contre, Blois n'a commis qu'une faute. Donc, ils vont pouvoir les faire tomber. Zamora, 3 points. Et celui-là aussi, il fait beaucoup de bien. Il vient de se
71-69, oui, il fait beaucoup de bien ce 3 points, ça pourrait être marrant et j'ai rattrapé le temps perdu sur ce petit extrait sonore. C'était Évreux contre Blois et c'était vendredi pour le coup. On a 2-3 reprises dit que c'était samedi. Patrick, super match. On n'est pas là pour parler du duo du commentateur, clairement, c'est pas la raison de cet extrait-là. Yornan Zamora qui est le capitaine hein, de mémoire de l'équipe, c'est ça, qui sort 2-3 points de nulle part sur la truffe de son adversaire et qui clairement scelle le match.
Oui, tout à fait. Je crois que d'abord Yornan est un très bon capitaine. Il a l'expérience. Il avait envie effectivement cette saison de prendre ce capitanat. C'est aussi, je dirais, la science de notre coach Neno qui a su associer à la fois la jeunesse et l'expérience. Et puis Yornan est un homme de caractère. C'est un homme du Sud. Quand il fait des erreurs, et vous l'avez souligné, il y a eu 2 ou 3 fois où effectivement il a donné la balle à l'adversaire, mais il a tellement envie de bien faire que derrière il veut absolument se récupérer.
Et il se rattrape.
Et il nous met un shoot dans ses ou qui permet de sceller le match.
Ah, Yornan Zamora, on aurait pu prendre le temps de parler de l'effectif de Neno Aceric que je vous vois à la fin du match. Vous le ramenez chez lui, quoi. Vous êtes président, c'est la classe, quoi. Vous êtes bien avec Neno, parce qu'il y a aussi une question peut-être de génération, je me permets. Vous êtes peut-être des hommes à peu près de la même âge, du même âge, avec des rapports à la vie communs. Parce que moi, j'ai eu plaisir à le découvrir, ce monsieur, je l'apprécie beaucoup, pour le coup. Je ne connais pas bien, mais le peu, c'est très bien. Quelle est votre relation avec Neno?
Ah, Neno, c'est autre... Pour la relation entre Neno et moi, ce n'est pas une relation simplement de coach, c'est une aventure humaine. On a appris à se connaître, j'ai beaucoup hésité, effectivement, j'étais pas seul, je dirais, à prendre la décision de prendre Neno comme coach, mais c'est vrai que j'ai appris à le connaître. Faut savoir qu'aujourd'hui, on s'appelle tous les jours, donc il y a vraiment une relation de confiance qui est née, et je crois que cette relation de confiance, il l'a également fait passer aux joueurs. Je rappelle juste une anecdote, 4 premiers matchs, 4 défaites, on commence à se poser des questions, il vient me voir et il me dit « Prézi, il faut pas se poser de questions, on va y arriver ». Faites-nous confiance, on est en train de se remettre en question, le groupe est en train de se remettre en question, le staff se remet en question, on va y arriver. On n'a effectivement pas trop mis la pression, vous regardez derrière, 3 matchs de suite gagnés, avec un enthousiasme et un collectif assez extraordinaire.
Patrick, on aurait pu faire 2 émissions d'une heure, on va être obligé de rendre l'antenne. Amis auditeurs, auditrices, on a fait la part belle aujourd'hui à la NM Basket Évreux, mais on reparlera du, j'allais dire du SPO Rouen, mais non, on parle maintenant de quoi comme club, comme entité pour Rouen? C'est le nom, les initiales, j'ai oublié. Oh, pardon, eh ben, excusez-moi, Rouennais. Bye bye, je vous remercie Patrick, on est obligé de couper court. Merci encore d'être venu ce matin, sinon on va rendre en retard. Merci,
merci,
à bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt, désolé, on vous dit au revoir, bye bye, bye bye, bye bye.